Sur Ado, Bob vous dit toute la vérité avec le cabinet Myriam. Cabinet Myriam Voyance.fr.
C'est lundi, il est 21h.
21h minuit, sur Ado. Bob vous dit toute la vérité.
Témoignages, invités, experts. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le côté obscur de la vie. Tous les soirs sur Ado, Bob vous dit toute la vérité.
Salut à tous, alors que nous entamons la dernière semaine de notre monde tel que nous le vivons quotidiennement, je suis très heureux de vous retrouver. En effet, jour J-4 avant que nous basculions dans un monde meilleur, c'est dans tous les cas ce que nous promettent les spécialistes. Fini la course à l'argent, au profit, au bien matériel, place au rapport humain, à l'amour et au bonheur avec un grand B. Même si j'ai du mal à y croire, au fond de moi, il existe une partie infime de ma pensée qui se plaît à y croire. Et si notre futur devenait bien meilleur que notre présent ? Réponse donc dès le 22 décembre. Avant cela, place aux phénomènes paranormaux que je suis le seul à mettre en lumière tous les soirs. Qu'il s'agisse de maisons hantées, de réincarnation, du diable et des exorcismes de la vie après la mort ou des ovnis, en ce lundi soir, je vais vous dire toute la vérité.
Ce qu'il aime, l'écoute pour savoir ce qu'il va dire. Ceux qui en ont peur, l'écoute aussi pour savoir ce qu'il va dire. Bob est sur Ado.
Comme promis, ce soir, entre 22h et minuit, je recevrai Jacques Grimaud, l'auteur du film La Révélation des Pyramides, ainsi que Patrice Poyard, son réalisateur. Ensemble, nous reviendrons sur ce docu sublime et sur toutes les questions qu'il vous incite à vous poser. Eh bien, il sera bien sûr aborder la question de la suite de leurs aventures en terre égyptienne et puis toutes les vôtres que vous pouvez poser encore dès maintenant au 3628. Vous avez été très nombreux à me les faire parvenir sur bob@adofm.fr. Là encore, ça vous est ouvert. Mais avant cela, place à quelqu'un que vous vouliez me voir inviter depuis très longtemps. Vous avez été très nombreux à me demander d'inviter Anne Givaudan. Elle est avec nous. Bonsoir Anne.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes auteur et co-auteur de 23 bouquins traduits dans 12 langues, enseignante et conférencière, donc ça en fait du boulot quand même. Et puis donc, sommité, je le disais, c'est vrai que à chaque fois que ça fait quoi, depuis le 30 août que je propose cette émission, et à chaque fois qu'on a fait le voyage astral, on m'a dit, mais il faut absolument que tu invites Anne Givaudan. Ouais. Il faut que tu l'invites. Voilà, c'est chose faite, c'est ce soir. Ouais. Donc notre rendez-vous est pris. Voilà, nous sommes face à face et on va pouvoir pendant une heure en savoir plus sur vous. Et notamment, ce qui est assez intéressant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des voyages astro, mais peu, en tout cas, nous racontent et nous ramènent des histoires extraterrestres. On avait eu Denis, ici, qui nous avait dit avoir rencontré également des extraterrestres, des êtres venus d'ailleurs. Et puis vous, également, première rencontre avec les extraterrestres, alors que vous étiez étudiante. Et là, c'était lors de votre premier voyage astral.
Oui, c'est ça, vous voulez que... Donc je vais déjà vous parler du voyage astral, parce que c'est ce qui m'a permis la première fois, donc effectivement, de pouvoir rencontrer un être qui n'était pas de la planète Terre.
D'accord. Et votre premier voyage astral, vous l'avez fait à quel âge, vous ?
Oh, mais j'étais étudiante, je devais avoir 16-17 ans.
D'accord.
Maximum.
Et ça s'est fait tout naturellement, ou c'est quelque
oui,
chose
tout
que...
à fait.
D'accord.
J'étais allongée sur mon lit, c'était l'après-midi, je me reposais, il n'y avait pas de drogue, il n'y avait pas d'alcool, il n'y avait pas de café ou de n'importe quel produit annexe.
Ouais.
Et j'étais simplement en train de me détendre entre deux cours. Et puis à un moment donné, je me suis vue de l'extérieur, j'ai vu mon corps allongé sous moi, donc sur le lit. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je me suis demandé, en fait, ça a été tellement rapide que la première question que je me suis posée, je me suis dit, est-ce que c'est ça la mort ? Et puis le temps de me poser la question, et j'étais revenue dans le corps physique. Mais par la suite, j'ai cherché quand même à savoir davantage sur ce qui s'était passé. Mais moi, à l'époque, il n'y avait rien.
Ouais. Alors, j'imagine Anne, que là, quand on revient dans son corps, qu'on a fait cette première expérience, on est un peu chamboulé, perturbé. On se demande ce qui s'est passé quand même.
Ah, complètement. Et puis je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé ? Qu'est-ce que j'ai eu ? Qu'est-ce qui s'est produit ? Et si je l'ai vécu, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui l'ont vécu aussi. Alors j'ai cherché et j'ai fini au bout de plusieurs mois par trouver un bouquin dans la fac où j'étais. Et puis un bouquin ancien qui parlait de quelque chose qui pouvait ressembler en quelques lignes et qui donnait le nom de voyage astral. Donc déjà j'avais au moins un nom à mettre dessus. Et puis je me suis dit, bon ben mais si je l'ai vécu, en fait je peux le reproduire aussi peut-être. Et j'ai essayé de retrouver le même état de relaxation dans lequel j'étais. Et à ce moment-là, effectivement, ça s'est renouvelé. Ce qui veut dire qu'au bout de 2 mois, peut-être, j'ai recommencé la même expérience. Mais là, Ça a duré un peu plus longtemps, c'est-à-dire que peut-être que j'ai eu moins peur ou que j'ai été moins surprise surtout. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à pouvoir passer la main à travers l'armoire de la chambre dans laquelle j'étais, à pouvoir m'apercevoir que mon corps qui flottait pouvait aller traverser le plafond. Mmh. Enfin, donc, il pouvait se déplacer. Donc, vous savez, c'est toutes les expériences qu'on peut faire au début, quoi. Les questions qu'on se pose, comment faire.
Et très, très vite, Anne, vous avez réussi à conduire votre corps astral, à vous diriger.
Mais comme un enfant qui apprend à marcher, on apprend plus ou moins vite. Moi, j'ai peut-être appris assez vite, mais disons que oui. Après, je savais que, en fait, en pensant à un lieu, je pouvais m'y trouver. Mm-hmm. Et en fait, ce qui était marrant, c'est que, bon, ben, au début, je me disais, ben, j'en parlais à personne, quoi. Et puis, bon, j'ai eu celui qui est devenu mon conjoint par la suite, avec lequel on a écrit les livres, et qui avait fait la même expérience avant moi, quelques mois avant moi, et avec qui j'ai pu en parler. Enfin, ça a été vraiment comme une rencontre à ce moment-là, où on a pu parler de... Ben, on était deux, en tout cas.
Bon, du coup, à cause de vous, toutes les agences de voyage ont fermé autour de vous. Hein. Voilà. Vous vouliez aller en Thaïlande, vous alliez en Thaïlande. Hein. C'est
voilà,
quand même...
exactement. C'est quand même... Je suis même allée, d'ailleurs, pour faire une expérience aux États-Unis. À l'époque, on jouait les Dents de la Mer.
Ah oui.
Et je me souviens très bien d'avoir assisté dans une salle de cinéma. En plus, avec le décalage horaire, ça allait très bien pour moi. Ouais. Donc, assister au film et revenir avant, évidemment, dans mon corps physique, ouais. Pouvoir raconter aux amis les détails du film, alors que le film n'était pas encore sorti en France. Ce qui fait que quand ils l'ont vu, bah, c'était sympa, quoi.
Parce et là, comme vous étiez chippie, vous l'avez raconté la fin. Donc voilà.
Ah non, même pas.
Donc ça, c'est important ce que vous dites là. C'est-à-dire que ouais. Vous pouvez choisir le lieu et surtout le temps, parce qu'un film, ça dure 2 heures. Donc vous pouvez rester 2 heures hors de votre corps.
Moi, en ce qui me concerne, je peux rester plus de 3 heures en dehors de mon corps physique. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde puisse faire pareil. Parce que, bon, j'ai cette faculté-là, j'ai cette capacité-là. Mais je ne la conseille pas à d'autres personnes. Parce que je dis, il faut être solide. Je dis, enfin, ça crée d'autres désagréments. Hein. Ça n'est pas que des avantages, évidemment, de sortir de son corps physique. Et moi, en tant qu'étudiante, bon, ben, c'est vrai qu'au début, ben, j'en parlais à personne, sauf à la personne avec laquelle j'étais. Et puis, après, ben, petit à petit, je faisais des expériences. Donc, j'en parlais à un ou deux amis. Je leur disais, ben, je vais aller vous voir à tel moment et puis vous dire ce que vous êtes en train de faire. Et ensuite, on se téléphone et vous me dites si c'est ça.
D'accord.
Parce que moi, il me fallait des preuves.
Bien
aussi,
sûr.
Hein.
Et puis, même
je
pour
vous. Quand même me rassurer
même
aussi.
Même pour vous,
me
ouais, bien
dire,
sûr.
Ben oui, et puis en plus ce que je voyais, bon, en même temps j'étais certaine que je ne rêvais pas, parce que ce que je voyais était beaucoup plus vivant encore que ce qu'on pouvait voir dans le corps physique, c'est-à-dire que tous mes sens s'étaient décuplés. Je pouvais entendre des sons très lointains, je pouvais avoir une vision à 180 degrés, je pouvais, enfin je peux...
En fait, tous vos sens étaient en éveil,
ouais.
Quoi.
Mais oui, donc tout était encore plus beau que ce qu'on peut voir quand on est dans le corps physique. Donc je savais que ça n'était pas quelque chose de flou, comme ce qu'on peut voir dans un rêve, ou enfin de entre deux, quoi.
Oui, parce qu'il y a justement, je crois que c'est Nicolas qui me dit comment Anne peut prouver que son voyage astral n'est pas en rêve. Il a posé la question sur la page Facebook, parce que c'est vrai qu'on peut très bien partir dans un rêve et parfois c'est tellement proche de la réalité, on se dit mais c'est fou, je dors pas, comment ça se passe?
Alors d'une part parce que je ne dormais pas, d'autre part parce que c'est beaucoup plus vivant qu'un rêve, ça dépend des rêves aussi, hein. Mais je veux dire, c'est beaucoup plus, il y a des rêves qui sont des voyages astro et on ne le sait pas, hein. Mais je veux dire, c'est la matière est beaucoup plus vivante, je voyais les atomes, je vois quand je suis hors de mon corps physique les atomes de la matière qui bougent, quoi. Donc c'est beaucoup plus intense, tous mes sens sont décuplés et en plus je veux dire, je peux ramener, effectivement au début je le faisais, maintenant je ne le fais plus, mais je pouvais ramener au départ des éléments qui pouvaient me montrer que je ne rêvais pas, parce que je pouvais aller dans un lieu, je pouvais communiquer avec une personne, je pouvais... donc on pourrait dire c'est de la télépathie, mais non, parce que les lieux, je ne faisais pas par télépathie, par exemple.
Vous me disiez, vous êtes allé voir donc Les Dents de la Mer à l'époque, film fabuleux de Spielberg, il avait 20 piges quand il a fait ce film, c'est un truc de fou, mais dites-moi, est-ce que le voyage astral peut se... vous emmener dans l'eau? Je me suis... Aujourd'hui, par exemple, on a un élément incroyable, moi je fais de la plongée sous-marine et c'est vrai qu'on descend pas bien profond, mais est-ce que avec le voyage astral on peut aller dans l'eau?
Ça ne pose aucun problème parce que l'élément, c'est comme si on était dans la cinquième dimension dont on parle tant en ce moment. Pour moi c'est la même chose, ça veut dire que l'espace et le temps ne comptent pas, donc, et la matière on la traverse. Donc que ce soit de l'eau, que ce soit un mur, quand on parle du passe-muraille, je veux dire, bon bah, ou de n'importe quoi, c'est pareil, hein, c'est-à-dire on peut aller dans les souterrains. Ça dépend, après, plutôt des êtres qui, eux, sont aussi du domaine de l'invisible et qui peuvent garder ces endroits.
D'accord.
Donc et... là, je peux aussi aller sous terre, mais jusqu'à un certain point, je peux aller visiter... Par exemple, j'aurais pu visiter les bibliothèques du Vatican s'il n'y avait pas des gardes à l'entrée. D'une manie... Enfin, je veux dire, des gardes subtils.
Ah.
Donc il y a aussi ça, je veux dire, c'est pas un monde immatériel.
Parce
c'est un monde...
Attendez, vous me dites les gardes subtils, ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent vous empêcher, alors que vous êtes en voyage astral, de pénétrer dans un endroit.
Ah ben complètement, complètement. Il y a des gardiens de lieux qui sont des lieux sacrés ou des lieux secrets, et puis il y a des êtres, par exemple, comme des êtres qui vont garder les tombeaux des pharaons, ou des êtres qui vont garder des lieux sacrés ou des lieux secrets.
Mais c'est qui ces êtres? Ce sont d'autres personnes qui sont en voyage astral aussi?
Alors, ce sont d'autres personnes ou qui sont en voyage astral, ou qui sont, ou des êtres qu'on peut appeler des êtres de l'invisible, parce que les mondes sont tellement peuplés qu'il peut y avoir toutes les formes, je veux dire, et qui sont à ce service-là. Mmh. Donc, il peut y avoir aussi des êtres de la nature. Par exemple, il y a des êtres de la nature qui peuvent garder des souterrains.
D'accord.
Parce que c'est leur fonction.
Donc, en fait, il y a plus...
Je veux dire, c'est un monde infini, hein, donc on...
Il y a plusieurs dimensions, quoi, en fait, c'est ça.
Bien entendu. D'accord. Il y a plusieurs dimensions, et en même temps, dans les mondes invisibles, il y a beaucoup d'êtres, de la même façon qu'il y a différentes populations sur Terre. Hein.
Mmh. Est-ce que vous pouvez aller dans le futur ou dans le passé?
Alors, dans le passé, c'est évident, parce que j'y suis allée plusieurs fois à travers mes livres. Ouais. Donc, parce qu'il y a une mémoire de l'univers. Ouais. Disons, chaque planète a sa mémoire, donc la Terre a une mémoire. Et dans cette mémoire est contenue toutes les archives ou toute la bibliothèque de tout ce qui s'est passé sur Terre dans le passé. Donc, je veux dire, même dans des civilisations comme l'Atlantide, dans des civilisations comme la Lémurie, dans toute l'histoire, et en même temps, je veux dire, l'histoire individuelle de chacun aussi. Donc, évidemment, dans le passé, c'est pas une problématique pour quelqu'un qui peut le faire. Et d'ailleurs, il y a des voyants qui vont dans certaines couches du passé. Et il y a des couches qui sont fiables et d'autres qui sont comme des miroirs déformants, qui ont une partie de vérité et une autre qui est déformée. Mmh. Et c'est pour ça qu'il y en a qui peuvent se tromper, bien entendu. Par contre, ce qui est du futur, c'est toujours en probabilité, parce qu'on peut modifier notre futur à un moment donné, suivant le changement qu'on peut avoir à l'intérieur de soi.
Mais c'est-à-dire que le scénario, c'est nous qui l'écrivons, mais on peut le faire évoluer, quoi, c'est ça.
Voilà.
D'accord. Et dites-moi, vous me disiez tout à l'heure que quand on fait du voyage astral, il y a des avantages, mais il y a aussi des désagréments. Quels sont-ils?
Les désagréments, bon, je veux dire, c'est-à-dire que, par exemple, une personne qui va faire un voyage astral sous drogue, admettons que, bon, à ce moment-là, il peut être dans un monde, quand on appelle un mauvais voyage, par exemple, je veux dire, il peut être dans un monde qui est tout à fait épouvantable ou qui va toucher au monde des éthyliques, c'est pareil, hein, je veux dire, quand ils sont en état de délirium ou... c'est-à-dire voir des choses terribles qui font partie du bas astral, et à ce moment-là, ils peuvent être aussi presque touchés par ce qu'ils voient, ou par les monstruosités qu'ils peuvent voir, et qui viennent aussi d'eux, mais qui existent aussi à l'extérieur. Et moi, il m'est arrivé, par exemple, d'avoir une fois de sortir de mon corps, mais j'étais pas dans un état très agréable. J'étais pas bien, quoi, enfin. Et donc, de faire cette expérience-là, il fallait que je la fasse pour pouvoir justement savoir ce que c'était, de me retrouver dans ce bas astral ou globe, quoi, en fait. Hein. Donc, pas intéressant du tout. Donc, il y a déjà ça. Ensuite, une personne, par exemple, qui a déjà tendance à pas avoir envie d'être sur Terre, si elle fait ça comme une fuite, ça va encore lui donner davantage, encore moins, disons, plutôt envie d'être sur Terre, parce que je me souviens de mes premières expériences, et quand moi je rentrais dans mon corps physique, j'avais l'impression de rentrer dans une prison, dans une poubelle, dans tout ce que vous voulez de désagréable, quoi. Donc c'était pas très agréable. Il faut vraiment avoir bien les pieds sur Terre et puis se dire qu'on a envie d'être là et qu'on a une raison d'être là, sinon on n'a qu'une envie, c'est de repartir.
Alors Anne, on va marquer une petite pause, car il faut gagner bien sûr notre vie, et on n'y va pas en voyage astral mais avec nos oreilles. Et on revient vers vous dans quelques instants. Anne Giraudon est notre invitée. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez surtout pas, les réseaux sociaux sont ouverts, hein, mon Elliot.
Oui, vous pouvez réagir sur la page Facebook Bob vous dit toute la vérité sur Ado, et sur le Twitter @BobVérité.
Allez, restez donc ici, je vous offre le seul et unique talk show radiophonique quotidien sur les phénomènes paranormaux.
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les secrets d'État, les ovnis, les envoûtements, la réincarnation.
Bob vous dit toute la vérité sur Ado. Du lundi au vendredi, 21h minuit. Sur Ado, Bob vous dit toute la vérité. Avec le cabinet Myriam. Cabinetmyriamvoyance.fr.
Parmi vous, certains y croient, d'autres pas. Quoi qu'il en soit, vous avez tous un point commun. Vous m'écoutez vous dire toute la vérité. La seule émission qui ose dire tout ce que tout le monde pense tout bas. Alors bien sûr, certains se déchaînent, crient, hurlent, au scandale. Quoi qu'il en soit, vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre chaque soir. Et je ne peux que vous en remercier ici. Pas de foot, pas de cul, mais toute la vérité sur des choses auxquelles vous êtes souvent confrontés. Et même si vous n'osez pas en parler, moi je le fais à votre place. Et même je suis prêt à vous écouter. Si vous voulez témoigner, 3628, vous dites Ado.
Bob vous dit toute la vérité.
21h minuit sur Ado.
Angie Vaudan est avec nous pour parler de ce qu'elle connaît bien et ce qu'elle maîtrise bien. Ce sont les voyages astro, le voyage astral. Voilà un vaste sujet. Beaucoup en vivent. Et parfois en pensant que c'est un rêve, Anne. Et alors vous, bien sûr, aujourd'hui, donc vous le maîtrisez. Est-ce que votre compagnon ou votre mari, je ne sais pas si vous êtes marié ou pas, mais est-ce qu'il le maîtrise aussi? Est-ce qu'il il lui aussi sur de son corps?
Alors le premier, oui.
D'accord.
Le second, non.
D'accord.
Alors,
le premier, parce que c'est intéressant de savoir, parce qu'on avait eu quelqu'un ici qui nous avait dit, en voyage astral, on fait tout ce qu'on veut. Est-ce qu'on peut avoir des rapports humains? Est-ce qu'on peut faire l'amour en voyage astral?
On peut faire ce qu'on veut, c'est sûr.
C'est
pas ce qui nous est arrivé, parce qu'effectivement, avec les corps physiques, bon, on a d'autres sensations, c'est sûr. Mais, je veux dire, donc on avait tellement de choses à découvrir que, bon, on pouvait faire d'autres choses, quoi.
Parce qu'on est dans un état incroyable, quoi.
Pourquoi pas? Il y a des entités qui peuvent le faire, oui.
D'accord.
Tout à fait.
Autre question, est-ce que dans un voyage astral, vous laissez donc votre corps libre, est-ce qu'une entité, une autre entité peut le récupérer?
Tout à fait.
C'est-à-dire
que si on fait ça avec des pratiques qui sont ou de magie ou de, je vous avais dit, de avec des choses extérieures, quoi. Mmh. C'est-à-dire si ça se fait pas naturellement, à ce moment-là, il y a des risques. Et ces risques-là, c'est aussi qu'une entité puisse prendre le corps qui laisse la place, quoi. Et que quand on revient, et ben tout d'un coup, on trouve que c'est habité. Bon, ça arrive quand même pas très souvent. Mmh. L'important, c'est de pas avoir peur quand ça arrive.
Il paraît qu'on a du mal à rentrer dans son corps.
Du mal à rentrer dans son corps, non, je vous disais tout à l'heure, c'est désagréable. C'est que, bon, il y a des personnes qui peuvent avoir du mal à rentrer dans leur corps si justement elles n'aiment pas leur vie sur Terre, ou si elles n'ont pas envie de rentrer.
D'accord.
Et ça peut aller jusqu'à la schizophrénie, et c'est pour ça que ça fait partie des dangers du voyage astral.
D'accord. Ah, c'est important de le savoir. Ouais. Et pourquoi, il y a quelqu'un qui me pose la question d'ailleurs sur le Facebook, on me dit, pourquoi la science aujourd'hui ne reconnaît pas le voyage astral?
Oh ben parce que la science ne reconnaît rien du tout, on en est encore à la préhistoire. Ça, c'est pas une nouveauté, parce que je veux dire, elle ne reconnaît pas les guérisons spontanées, elle ne reconnaît pas le voyage astral, elle ne reconnaît pas la présence des extraterrestres, elle ne reconnaît pas, il y a plein de choses qu'elle ne reconnaît pas. Donc je veux dire, la science, c'est vraiment le béaba au début, on n'en est qu'au début. De la science, donc ça me paraît logique que... Mais vous savez, on dit qu'elle ne reconnaît pas, mais elle le reconnaissait à une autre époque. C'est à partir du moment où on a commencé à décider à séparer le corps physique de l'esprit, que bon, bah, on a décidé que toutes les choses de l'esprit étaient dans notre domaine et que ça n'existait pas, quoi.
Et puis on le reconnaît pas véritablement dans des pays occidentaux, mais il y a des pays, quand même, on reconnaît énormément ce voyage astral.
Au moins on en a connaissance,
c'est ça.
Voilà, de la même façon qu'on a connaissance des incarnations, des réincarnations, ou des choses de ce type, ou des enfants qui naissent en ayant une langue particulière, ou en ayant des connaissances particulières, bien sûr.
Alors, on a décidé, bien évidemment, de vous avoir aussi ici ce soir pour nous parler des rencontres que vous pouvez faire en voyage astral, et donc notamment ces rencontres avec les extraterrestres. Parce que beaucoup de gens, d'ailleurs, nous disent avoir rencontré des extraterrestres dans le voyage astral. La question qu'on se pose, c'est est-ce que ce sont véritablement des extraterrestres ou simplement des gens, puisque vous me parliez de plusieurs dimensions, qui habitent d'autres dimensions et qui sont parfois peut-être terrestres aussi?
Tout à fait. Alors, il peut y avoir d'une part des terrestres qui font la même chose que moi, c'est-à-dire qui font des voyages astro, et on peut à ce moment-là se rencontrer si on est sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire si on a... Parce que ce sont des mondes où on ne peut se voir que si effectivement on a quelque chose qui nous réunit ou qui... Oui, c'est ça, qui nous rassemble, quoi, un peu. Par contre, il peut y avoir effectivement des êtres qui n'ont jamais eu de corps physique aussi, qu'on peut rencontrer sur ces plans-là. et des êtres d'autres dimensions, mais qui ont habité d'autres planètes ou qui habitent d'autres planètes. Et dans ce cas-là, on pourrait dire extraterrestres, évidemment. Le premier que moi j'ai rencontré, c'est lors, donc, au bout de 7 ans où j'ai expérimenté donc, le voyage astral, où j'ai appris à connaître, disons, comment me servir de ce deuxième corps, à savoir que c'était lui qui pensait, à savoir, bon, ben voilà, que faire avec lui. Au bout de 7 ans, je me suis rendu compte que la qualité de mes pensées, c'était pas simplement le fait de penser à un lieu, mais la qualité de mes pensées pouvait me permettre de passer sur un autre niveau, mais je savais pas encore lequel, quoi. Mais je savais que je pouvais transformer quelque chose. Et à ce moment-là, un jour, ça m'est arrivé, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je suis passée dans une spirale, celle que décrivent les personnes qui ont vécu des morts cliniques.
Des expériences de mort imminente, quoi.
Voilà, c'est ça, une expérience de mort imminente, si ce n'est que que j'en suis revenue puis que j'ai pu la provoquer par la suite d'autres fois. Et au bout de cette spirale, effectivement, à ce moment-là, je me suis trouvée dans un autre monde qui n'avait rien de terrestre, mais qui en même temps avait quand même ses paysages, avait quand même sa matière. Et à ce moment-là, j'ai rencontré un être qui me sert toujours de guide. Et cet être-là, justement, c'est le premier donc être que j'ai rencontré qui n'avait pas cette apparence humaine. Enfin, il avait une apparence humaine, mais je veux dire, il était bon d'une couleur très différente. Il avait un physique différent. Et la première chose mais disons plutôt ce qui émanait de lui était tellement paisible, était tellement beau, ouais, qu'en fait, je n'ai eu aucune crainte.
Mais il vous a dit qui il était, d'où il venait ?
Pardon ?
Il vous a dit qui il était, d'où il venait ?
Alors, ce qu'il m'a dit, oui, justement, il m'a dit à ce moment-là, donc on a fait connaissance, quoi. Il m'a dit, c'est moi qui ai provoqué les premières décorporations,
ah ouais,
vos premiers voyages astraux. Et il a dit, c'est en fait, vous, il s'adresse à nous deux, c'est-à-dire à mon ex-mari et à moi, ouais, il a dit, vous avez pris un engagement, c'est de faire comme des journalistes, de raconter ce que vous pouvez vivre de cette façon-là, et les mondes que vous rencontrez. Donc, est-ce que vous êtes toujours d'accord ? Et il a dit, moi, je suis, on s'est connus, et je suis le représentant d'un collège d'autres planètes, ouais, donc interplanétaires, ouais, et qui sert justement pour l'avance, c'est-à-dire pour petit à petit réouvrir des portes que l'humain a fermées, mais qu'il connaît forcément.
Donc vous êtes un émissaire en fait pour ces gens-là ici.
Bon, on pourrait dire un journaliste, ouais, on peut dire ce qu'on veut en fait, ça n'a pas d'importance. Mais en tout cas, moi ce que j'ai fait à partir de ce moment-là, donc j'étais étudiante, on a pris cet engagement, bon, sans trop savoir à quoi ça allait nous mener. On a quand même pris 6 mois pour réfléchir parce qu'on s'est dit, bon bah, et qu'est-ce qu'on va faire avec ça, etc. Et puis on a commencé à écrire, on s'est dit, bon d'accord, on va écrire ce qu'on vit et puis comment on le vit sans vouloir chercher à prouver. Et à ce moment-là, quand on a eu fini le premier livre, bon bah, on a eu une première émission avec Bouvard, une deuxième avec Chancel, etc. Et puis tout est parti comme ça. Et après c'était bon.
Et à chaque fois que vous sortez de votre corps, ce guide, entre guillemets, vous le voyez ?
Pas à chaque fois, c'est-à-dire que c'est lui qui préside à chaque livre, à chaque sujet, à chaque thème.
D'accord.
Il me propose, il me fait une proposition, par exemple, il me dit, bon, là, ça serait bien de parler de telle chose, est-ce que tu es d'accord pour entrer en contact avec telle personne ?
Incroyable. Donc, il vous donne voilà, l'inspiration,
ou alors avec tel groupe de personnes, ou de parler de tel sujet, et puis ensuite, après, c'est à moi de voir, quoi.
Alors, voyage, bien sûr, sur d'autres planètes, j'imagine. Quel genre de planète avez-vous rencontré ? Quel genre de planète avez-vous visité ? Et quel genre d'être extraterrestre avez-vous rencontré en dehors de votre guide ?
Bon, ben alors là, après, j'ai pu en rencontrer beaucoup dont je ne pouvais pas parler jusqu'à présent parce que ça n'était pas le moment. Et puis ensuite, j'ai écrit le livre Alliance. Et là, donc, il y a 4 ou 5 ans, je ne sais plus trop au niveau des dates. Mais à ce moment-là, j'ai eu l'accord pour pouvoir parler justement des rencontres que j'avais faites sur d'autres planètes, dont la planète Vénus, qui est une la planète avec laquelle j'ai le plus de contacts. Mais il faut savoir que toutes les planètes du système solaire sont habitées.
Ah bon ? Ouais, pourtant les scientifiques nous disent non.
Bah oui, de la même façon que les scientifiques ne connaissent pas non plus les fantômes, ou je veux dire, parce qu'ils les voient pas.
D'accord.
Donc, c'est pas parce qu'on voit pas quelqu'un qu'il n'existe pas.
Donc en fait, toutes les planètes de notre système solaire sont habitées par des extraterrestres.
Voilà, elles se sont habitées par leurs habitants en tout cas.
Oui, c'est ça.
Nous on appelle extraterrestres parce que c'est hors de notre contexte.
Oui, c'est ça.
Mais donc elles sont habitées, bien entendu. Et puis ces êtres ont donc chacun. Il n'y a qu'une race par planète. C'est la Terre est la seule qui comporte autant de races. Mais elle comporte autant de races parce que en fait il y a beaucoup de au départ cette planète donc est considérée par les autres planètes comme une planète école, et la seule fausse note actuellement du système solaire.
D'accord. Cela dit, c'est une force hein, pour nous d'avoir plusieurs races, parce que une seule race, c'est quand même pas génial. Hein, quand même, il suffit qu'on soit pas tombé sur la bonne.
C'est facile pour faire l'unité, quand même.
Hein. Oui, mais bon. En même temps, l'avantage de la multiculture, c'est vachement sympa, quand même. Aussi.
Quand on réussit à en faire quelque chose de beau, oui.
C'est ça. c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas gagné, quand même. Hein, donc, on se fout un peu sur la gueule. Donc, alors, quel rapport? Alors, vous me dites, ils nous regardent, donc on a un peu une planète école. Vous disiez, est-ce que les extraterrestres sont bienveillants? À notre égard, est-ce qu'ils nous regardent? Parce qu'on a la sensation qu'on est souvent visité, que des gens sont abduqués.
Oui, effectivement, il y a de tout. Alors, ça fait quand même très longtemps que les êtres de l'espace existent. Mmh. Et quand les personnes ont peur d'une invasion, ça me fait sourire parce que je me dis, ça fait très longtemps qu'on pourrait dire que la planète Terre est envahie et que même chaque terrien a en lui des graines d'étoiles dans la mesure ou des semences d'étoiles dans la mesure où les races. Pourquoi ces races sont différentes? Elles sont différentes parce qu'elles sont issues de planètes différentes. Donc il y a ça aussi. Et il y a ceux aussi qu'on appelle les jardiniers de la Terre, qui sont des généticiens de haut niveau et qui ont créé des corps physiques.
Est-ce que vous pensez qu'on est les enfants justement d'extraterrestres, nous?
Disons qu'il y a une semence. C'est pas forcément les enfants, mais il y a en tout cas quelque chose qui fait qu'on a une partie, quelque chose des étoiles. Mmh. Et c'est pour ça que quelquefois on a l'impression de venir d'une autre planète, on a l'impression de pas être bien sur Terre. Mais c'est une planète qui est quand même convoitée de différentes façons. Parce qu'elle a des paysages qu'il n'y a pas sur d'autres planètes, parce qu'elle a une diversité effectivement qu'il n'y a pas sur d'autres planètes. Et par contre, donc, il faut penser quand même que la technologie que nous avons actuellement sur la planète Terre est beaucoup plus évoluée que celle qu'on fait croire aux personnes. Il y a des laboratoires en Alaska qui savent déjà manipuler au niveau génétique, comme on le faisait à l'époque de l'Atlantide.
Ouais, c'est-à-dire qu'on nous cache encore des choses, c'est-à-dire qu'il y a deux informations. Il y a l'information qu'on veut bien nous donner, et puis il y a celle qui est cachée, et bien sûr.
Il y a l'information grand public, et qui maintient les personnes dans un état d'impuissance ou l'impression que de toute façon on est les seuls à exister sur Terre. Et puis après, il y a l'information, il y a ce qui se passe réellement, quoi. Donc il y a des contacts extraterrestres depuis très longtemps, et tous les gouvernants, je peux vous garantir que tous les gouvernants le savent.
Mais quand vous me dites depuis très longtemps, ça remonte à quand d'après vous les contacts extraterrestres avec les terriens?
Déjà depuis l'apparition de l'homme sur Terre, qui n'a rien à voir avec l'évolution que l'on veut nous faire croire de Darwin ou autre. Et puis aussi, depuis 18 millions d'années, il y a quand même une ambassade extraterrestre qui était dans le désert de Gobi jusqu'à présent, et qui a, mais qui n'est pas visible, disons, qui est protégée par une barrière psychique très forte, et où ne peuvent rentrer que les personnes qui sont invitées. Et il y a des personnes qui ont été invitées quand même à les contacter.
Vous y êtes allé, vous, ou pas?
J'ai eu des contacts avec eux, oui, bien sûr.
D'accord.
Que je raconte dans certains livres.
D'accord. Vous me dites que les gouvernements sont au courant. Vous pensez qu'aujourd'hui, le gouvernement de François Hollande, par exemple, celui d'Obama, connaissent l'existence de ces bases, de ces extraterrestres, de ces êtres venus d'ailleurs?
Qu'ils en connaissent l'existence, c'est une évidence. Même si ce ne sont pas les vrais gouvernants, je veux dire, si ce n'est pas eux qui gouvernent. Ils en connaissent quand même l'existence.
Oui. Vous aussi, vous pensez qu'en fait, nos gouvernants ne sont pas ceux qui gouvernent?
C'est une évidence, c'est sûr. C'est sûr, je veux dire, la puissance qui gouverne derrière, c'est la puissance financière. Et derrière la puissance financière, il y en a d'autres. Mais je veux dire, là, on a juste des pantins. Qu'on prenne l'un, qu'on prenne l'autre, vous aurez toujours le même résultat. Hein.
Est-ce que vous pensez que les extraterrestres sont derrière nos gouvernements? Est-ce qu'ils sont influencés par des forces venues d'ailleurs?
Il y en a, bien entendu, parce que les sous-sols des États-Unis sont remplis d'êtres, effectivement, qui viennent d'ailleurs. D'accord. Et moi, j'ai eu un congrès à Madrid il n'y a pas très longtemps, il y a quand même 2 ans, si, et cette année à Rome, sur ce sujet. Et il y a 2 ans, j'étais avec un militaire de la base 51 aux États-Unis et qui disait, mais moi, j'ai travaillé avec Bob Dean, qui disait, moi, j'ai travaillé avec des extraterrestres. Et un deuxième qui était là et qui disait, mais moi, j'ai fait des bases sur Mars. Et c'est pas si loin que ce qu'on nous dit. Et il faut pas autant de temps pour y aller que ce qu'on nous dit non plus. Donc, vous voyez, Bob Dylan disait, par exemple, il disait, mais justement, il racontait une anecdote et il disait, bah, on travaillait avec eux et puis à un moment donné, on leur disait, bah, ça se passe bien, vous êtes contents d'être avec nous, de pouvoir collaborer à des recherches. Alors, il disait, oui, ça va.
D'accord.
Est-ce qu'à un moment donné, il a dit, il y a des choses qui sont difficiles pour vous. Alors, il a dit, oui, il y a quand même donc des extraterrestres. Bon, il y a quand même quelque chose qu'on a du mal à supporter, c'est votre odeur.
Votre odeur. Alors, oui, mais il y en a qui mettent pas de déo.
C'est ça. C'est justement. Alors, c'est ce qu'il s'est. Il a posé cette question. Il a dit, mais c'est quoi? C'est nos déodorants, nos parfums, etc. Là, l'être lui a répondu, non, pas du tout. C'est vos pensées qui dégagent une odeur absolument très difficile à supporter pour nous.
Nos pensées, en fait, c'est ça. Elles sont
nous abondantes. Et en fait, d'accord. C'est les êtres de la nature disent la même chose.
Ouais. Est-ce qu'il y a certaines races d'extraterrestres, Angie Vaudan, qui nous sont nuisibles?
C'est pas qu'elle soit nuisible, elle cherche pas à être nuisible, elle est pas plus nuisible que nous quand on va dans une colonie, quand on décide de prendre le sol parce qu'on trouve que c'est bien, que par exemple quand on faisait des conquêtes ou en Amérique du Sud ou n'importe où quoi, ou chez les Amérindiens et puis qu'on trouvait que ma foi ça pouvait être un bon esclavage et que la terre était intéressante. Donc je dis, ils sont pas. Leur technologie est très avancée, mais par contre au niveau de leur mentalité ou de leur esprit, il y en a qui sont encore au niveau des conquêtes.
C'est ça, ouais.
Mais ils le font beaucoup plus, beaucoup plus discrètement que nous ne l'avons fait dans d'autres pays. Mais ce qui est toujours curieux, c'est que les personnes de la Terre voudraient être considérées beaucoup mieux qu'elles n'ont considéré les personnes, les autres, quoi.
Ouais. Est-ce qu'il y a des races extraterrestres qui souhaiteraient nous piquer notre Terre?
Piquer, non, mais par contre, pouvoir y venir, pouvoir utiliser, disons, les substances que nous dégageons, parce qu'il y a des substances qui leur manquent et des enzymes qui leur manquent sur leur planète, parce qu'à un moment donné, ils ont créé la destruction de leur propre planète, ce qui pourrait arriver pour la nôtre aussi, hein.
Ouais.
Et ils ont créé cette destruction, leur planète s'est dévitalisée et maintenant il leur manque des enzymes, ce qui fait qu'ils viennent les chercher sur Terre, ils font un pacte, ils donnent une avance technologique, si vous voulez, à des gouvernants. Alors eux, ça ne les dérange pas de les donner aux Américains et aux Russes en même temps, hein.
Ah oui.
Tout en faisant croire qu'ils ne les donnent que d'un côté, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais en même temps, ils vont donner cette avance technologique, donc il va y avoir un bond en avant au niveau technologique, moyennant le fait de pouvoir rester quand même dans les sous-sols, le fait de pouvoir utiliser les animaux, par exemple, c'est pour ça qu'on a trouvé des bétails, enfin des animaux mutilés. C'est pour ça aussi que il y a des abductions aussi.
Et vous savez, on parle beaucoup du 21 décembre et du Mont Bugarach, et certains disent que dans ce mont, c'est une base extraterrestre également. Est-ce que vous le pensez également, ou est-ce que c'est vrai ou pas, d'après vous?
Alors, le Mont Bugarach, c'est un mont qui est particulier, puisque vous savez bien que, je ne sais pas si vous savez, mais il y a en tout cas une partie des scientifiques qui ont été là pendant 10 ans en train de faire des recherches. Mmh. Et il y avait une barrière autour et personne ne pouvait les voir, excepté les hélicoptères qui venaient les nourrir. Et au bout de 10 ans, ils sont partis. Moi, j'ai pu aller voir les endroits où ils avaient été. Mmh. Ils ont laissé du jour au lendemain leurs cahiers, leurs affaires, les photos de famille, tout. Ils sont partis, mais vraiment en laissant tout sur place, hein. Et en disant, on a trouvé. Et puis à ce moment-là, les hélicoptères sont venus les chercher. Mmh. Mais eux ont tout laissé. Et donc, effectivement, il y a quelque chose. Donc, c'est évident qu'il y a quelque chose. Mais vous savez, la Terre creuse et les êtres de la Terre creuse ont la même technologie que les êtres hors planète. Donc, ce qui veut dire que s'il y a des vaisseaux spatiaux qui viennent de la Terre creuse, ça va donner la même impression que ceux qui viennent de d'autres planètes.
Bien sûr, bien sûr. Alors Anne, je vous propose de marquer une deuxième pause. C'est la dernière dans notre discussion. Il est 21h34, c'est incroyable ce que nous apprenons ce soir. Des témoignages, des révélations, des experts, des invités, c'est ce que je vous propose tous les soirs. Angie Vaudan est avec nous. Si vous voulez réagir, n'hésitez pas, je sais que vous êtes nombreux à le faire ce soir.
Oui, sur la page Facebook, Bob vous dit toute la vérité sur Ado, ou sur Twitter, @BobVérité.
Ah, ça discute, hein, je peux vous dire. Continuez à le faire, n'hésitez surtout pas, on revient dans un instant vers Angie Vaudan.
Bob vous dit toute la vérité.
Tous les soirs, de 21h à minuit sur Ado. Après, plus rien ne sera jamais pareil.
Sur Ado, Bob vous dit toute la vérité avec le cabinet Myriam. Cabinet Myriam Voyance.fr.
Yes, alors Anne Givaudan est avec nous, nous parlons du voyage astral. Anne, j'avais envie de vous poser cette question. Est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas le danger de préférer son corps astral à son corps physique?
Ah si, ça fait partie des dangers justement des décorporations. Hein. C'est qu'à un moment donné, on a plus envie d'être dans cet autre monde avec le corps astral que de revenir dans le corps physique.
Parce qu'il y a une sensation de chaleur, de douceur, de bien vivre quand on est dans ce corps astral.
Une sensation de liberté extraordinaire. On n'a plus d'espace, le temps est complètement différent, l'espace est complètement différent. On voyage à la vitesse de la lumière, de la pensée, on fait ce qu'on veut, enfin je veux dire ce qu'on veut à peu près en tout cas. Mais je veux dire, on est libre.
Oui. Est-ce que vous rencontrez des personnes décédées?
C'est quand même pesant.
Oui, est-ce que vous rencontrez des personnes décédées dans vos voyages astro?
Je pourrais, disons qu'il m'est arrivé de faire des expériences où à ce moment-là, effectivement, j'ai pu les rencontrer. Mais elles pourraient ne pas me voir parce que moi, je suis toujours reliée par le cordon, la corde d'argent qui me permet d'être reliée à mon corps physique. Les personnes qui sont décédées, non. Et la seule différence entre elles et moi, c'est qu'elles n'ont plus cette attache avec le corps physique. Donc, nous ne vivrons pas exactement de la même façon, ce qui veut dire qu'elles ne me voient pas forcément.
En fait, la seule chose qui vous relie à la vie, c'est cette corde d'argent, quoi.
Oui.
D'accord.
Oui.
Et elle peut se rompre, cette corde?
Ah ben, elle pourrait. Disons, au moment de la mort, de toute façon, elle se rompt. Sinon, elle peut être, quand on va loin, elle peut faire la dimension d'un cheveu, quoi. Donc, être extrêmement fine, s'étirer très loin. Et si ça dure, le voyage astral dure trop longtemps, à ce moment-là, c'est comme si elle nous rappelait vers le corps physique. À ce moment-là, je sens une sensation et je me dis, bon, maintenant, c'est la limite du temps.
Ouais.
Et je dois revenir dans mon corps physique, sinon, lui va perdre son énergie et au lieu de se régénérer, il va s'épuiser.
Ouais.
Mais en fait, le voyage astral, tout le monde le fait chaque nuit, inconsciemment.
D'accord. Oui, on le maîtrise pas, alors que vous le maîtrisez, hein, c'est votre
ça.
Truc maintenant.
Ouais, ouais.
Il y a beaucoup de gens qui me demandent comment faire pour faire ces voyages astro. Est-ce que tout le monde peut le faire? Il faut beaucoup de temps, j'imagine. Il faut se détendre. Il faut être. Moi, j'ai vécu. Je l'ai déjà raconté ici. Une expérience incroyable. Mais je revenais de. J'étais en décalage horaire, complètement fatigué, complètement mais épuisé. Et tout d'un coup, je me suis vu dans l'angle du plafond de ma chambre et je me suis vu en fait avec ma femme allongée. Donc c'est vrai que j'ai rien du tout maîtrisé. C'est la première fois que ça m'arrivait. Ça a été la dernière. J'ai jamais réussi à faire quoi que ce soit. Mais est-ce qu'on peut essayer? Est-ce que le commun des mortels peut y arriver?
Le commun des mortels, de toute façon, tout le monde le fait chaque nuit. Donc déjà, ça veut dire que tout le monde peut y arriver. Et c'est comme quand on apprend le piano. Je veux dire, on peut tous pianoter, on peut tous faire du vélo. On n'est pas forcément un coureur cycliste.
Oui, c'est ça. Ouais.
Donc après, on a des capacités. Et c'est surtout, ça dépend de ce qu'on a à faire. Quelquefois, on le fait une fois et c'est marquant pour tout le restant de nos jours. On sait qu'il y a autre chose qui existe. Et puis quelquefois, on n'a pas besoin de le faire pour continuer à changer, à évoluer, à continuer notre histoire.
Et dans quel
donc,
état,
dépend vraiment.
Dans quel état vous mettez pour faire un voyage astral? Est-ce que vous vous allongez, vous relaxez, vous...
Je préfère, oui, parce que pour que mon corps physique soit dans une position confortable quand même, parce que si j'étais dans une position inconfortable et que ça dure trop longtemps, le corps physique, évidemment, va s'ankyloser. Oui, donc en général, je le fais allongé. En général, je le fais quand je suis tranquille, c'est-à-dire le soir, parce que comme ça, il n'y a pas de bruit extérieur ou il y a moins de risque d'être dérangé, parce qu'il ne faut pas que je sois dérangé pendant un voyage astral.
Voilà, c'est ce que j'étais en train de marquer cette question pendant que vous parliez. Je me disais, vous êtes en voyage astral, vous êtes allongé sur votre lit, un ami, quelqu'un rentre dans la chambre et...
Si ça se fait brutalement, je peux rentrer dans mon corps physique à ce moment-là très violemment. Je peux rentrer à côté de mon corps physique, je peux rentrer à moitié dans mon corps physique, et là, ça fait des désagréments importants quand même.
Oui, c'est ça.
Ça peut aller du simple mal de tête, comme je vous disais tout à l'heure, jusqu'à la schizophrénie. Hein. Ça dépend comment on rentre dans le corps physique. Donc ça peut être dangereux,
oui. D'accord, oui, donc il vaut mieux que vous soyez toute seule à la maison, en tout cas.
Et puis tranquille, enfin, même si je ne suis pas toute seule, que je sois tranquille. Je sais qu'à ce moment-là, personne ne va rentrer violemment ou brutalement, quoi. Hein.
Vous en faites tous les jours?
Non, je le fais quand... Non, parce que justement, ça serait trop décalant par rapport à la vie terrestre. Si je faisais ça tout le temps, consciemment, ça veut dire que je serai toujours entre deux mondes et ça serait très inconfortable pour moi. Donc, ce qui fait que non, je vis ma vie terrestre avec les capacités que j'ai dans la vie terrestre. Et ensuite, quand j'ai un livre à écrire ou une expérience à faire, ça va durer sur plusieurs mois. Dans ce cas-là, régulièrement, je vais le faire, rapporter ce que j'ai vécu. Et puis, ça peut être, par exemple, une cinquantaine de fois, une soixantaine de fois, ça dépend. Par exemple, je vais faire une expérience, c'est l'équivalent de 3 ou 4 jours d'expérience sur Terre.
Oui, d'accord.
Le temps est différent.
Ouais.
Donc moi, je vais pouvoir raconter pendant 3 ou 4 jours ce qui s'est passé.
Mmh. Ah oui, c'est quand même pas du tout le même rapport. Hein.
Ah, ça n'a rien à voir et c'est ce qu'on va connaître, je pense, par la suite.
Ouais.
De toute façon, parce que c'est ça, cette dimension différente.
Mmh. Bah, en tout cas, c'est en tout cas ce que beaucoup de gens disent, même ceux qui ont vécu donc des expériences de mort imminente et qui justement sortent de leur corps et puis reviennent et nous disent mais ça n'a rien à voir, le temps n'est pas pareil, on vit pas la même chose.
Non. Et puis le gros avantage, c'est que le fait de savoir qu'on n'est pas dans le corps physique, ça donne une liberté et en même temps on n'a plus peur de la mort. Quoi.
Ouais. Alors, on va revenir vers vous, Anne. Petite pause musicale, cette fois-ci. On met un peu de musique, on se retrouve dans un instant. Nous parlons du voyage astral avec Anne Givaudan. Incroyable, on reviendra bien sûr sur vos périples, vos aventures, et notamment extraterrestres, dans l'univers. Vous allez où vont vous semble, quelle que soit la planète que vous décidez de visiter, vous la visitez. Et je vous poserai cette question, à quoi ressemblent les extraterrestres? Est-ce qu'il y a des gens qui nous ressemblent? Quel type d'extraterrestres avez-vous rencontré? Mais avant cela, Mathieu nous dit ce qu'on va écouter.
Ouais, première petite pause musicale de la soirée avec Dry et Maître Gims avec Ma Mélodie sur Ado et dans toute la vérité.
Bob vous dit toute la vérité. C'est aussi sur les réseaux sociaux. Regardez, commentez, likez, partagez.
Yes, et vous pouvez même télécharger toutes les émissions podcast via le site d'Ado. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Vous pouvez ainsi écouter l'émission à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. En tout cas, dans 10 minutes maintenant, dès 22h, Jacques Grimaud, l'auteur du film La Révélation des Pyramides, et Patrice Pouillard, le réalisateur de ce même film, seront ici entre 22h et minuit pour répondre à toutes les questions que vous vous êtes posées après avoir vu ce documentaire incroyable. Vous avez été très nombreux à me poster vos questions. Continuez à le faire. Bob@adofm.fr ou tout simplement 3628 ou dites Ado.
Toute la vérité.
Avec Bob.
21h minuit sur Ado.
Anne Givaudan est avec nous. Elle nous fait l'amitié et le plaisir d'être là sur Ado ce soir pour parler de ce voyage astral. Anne, on va donc revenir sur ces extraterrestres. Je vous le disais, que vous pouvez, comme bon vous semble, rencontrer. Sauf que, comme vous disiez tout à l'heure, il faut quand même que vous ayez une certaine permission. Hein.
Ah, mais c'est-à-dire qu'il faut que je sois au moins, oui, comme chez une personne invitée ou acceptée, quoi.
Mmh. On peut pas pénétrer dans leur univers sans que l'on soit invité.
Non, c'est certain. De toute façon, c'est comme chez n'importe qui. Mais c'est vrai que je peux aller par ce moyen donc de sortir du corps, d'aller m'éloigner de la planète Terre, la voir dans son ensemble, aller sur d'autres planètes, ça c'est faisable quoi.
Quelle est la planète que vous bon, je sais que vous avez une affinité avec Vénus, mais d'autres planètes, est-ce qu'il y a de très belles planètes comme la Terre ou pas? Pas aussi belle, parce que vous me disiez...
C'est celle qui pourrait être la grande sœur de la Terre.
Hein. Ah oui, d'accord.
C'est pour ça que c'est celle qui serait le plus proche dans la façon de... C'est un peu celle qui pourrait aider la Terre et qui aide la Terre, disons les êtres de Vénus, sont eux qui aident le plus la Terre.
Et alors quel est leur système de vie? Est-ce qu'ils mangent? Est-ce qu'ils dorment? Est-ce qu'ils se marient?
Ils sont passés par le même stade que la Terre et c'est pour ça qu'ils sont capables de comprendre ce qui est en train de se passer pour nous tous, quoi. Par le même stade d'évolution, mais
d'accord.
Évidemment, bon, maintenant ils ont carrément changé de plan et il y a aussi évidemment des mariages. Bon, j'en parle dans le livre Alliance parce que c'est exclusivement sur cette planète-là. L'enfance dure très peu, par contre la vie dure très longtemps. Ce qui veut dire que vraiment proportionnellement, il y a très peu. Quoi. Sur Terre, on essaie de garder l'enfance le plus longtemps possible. Là-bas, une entité qui s'incarne, un être qui s'incarne, par exemple, qui arrive, il est pressé de pouvoir être opérationnel, donc de pouvoir être capable de faire ce qu'il est venu faire.
La vie dure plus longtemps, on meurt moins vite.
La vie, oui, elle dure 300, 400, 500 ans.
Ah ouais.
Sans aucun problème, oui.
Est-ce qu'ils ont une... Alors, vous savez, je parlais tout à l'heure...
Il y a pas de maladie, par exemple.
D'accord.
Bon, parce que, justement, ils ont compris que, il y avait une façon de guérir au niveau des plans subtils avant que ça n'arrive jusqu'à leur corps physique.
D'accord.
Parce qu'ils ont aussi un corps physique dans leur dimension.
Mmh. Alors, il ressemble à quoi ce corps physique? Est-ce qu'il ressemble à l'être humain?
Le corps physique, il est quand même assez proche des humains, mais bon, par exemple, quand on parle des grands blonds, ça pourrait être assez proche. Ce ne sont pas les nordiques dont on parle dans chez les extraterrestres, qui est encore une autre race, mais ce sont des êtres qui sont... on ne peut pas dire androgynes, parce qu'on reconnaît quand même un homme d'une femme, mais presque. Et bon, avec évidemment, ils ont l'apparence humaine, plutôt blond. Mm-hmm. Et puis, on pourrait dire un visage lisse, enfin quelque chose de beau, de toute façon d'esthétique.
Est-ce que certains, on a dit que certains avaient été, s'étaient accouplés avec des terriens, est-ce que c'est vrai ça?
Ah oui, des enfants hybrides, il y en a, moi j'en ai rencontré bien sûr. Mais.
En France aujourd'hui, vous me dites qu'il y a des enfants hybrides?
En France, dans le monde en tout cas. Hein.
Ouais.
Je veux dire que sur Terre, il y en a.
Et on les reconnaît? On peut les reconnaître ou pas?
Il y a des êtres de l'espace aussi, hein, bien sûr.
Ah bon? Sur Terre aujourd'hui, il y a des êtres devenus d'ailleurs?
Bien sûr. Déjà, je vous disais tout à l'heure qu'il y en avait dans les souterrains au niveau des États-Unis, mais il y en a dans d'autres souterrains aussi. Mmh. Et puis, il y a aussi des êtres qui prennent une apparence humaine un certain temps, parce que c'est pas difficile pour eux de prendre une apparence humaine, parce que, par exemple, s'ils sont en mission pour un an, pour 6 mois, pour quelques jours, bon, ils peuvent très bien prendre une apparence. Et d'autres qui vont naître de la même façon que va naître un enfant, dans une famille qui peut être très bien une famille terrienne, mais eux sont d'origine non terrienne.
Mais ça veut dire que moi, autour de moi, je peux avoir par exemple des amis qui peuvent être des êtres venus d'ailleurs, qui ont pris l'apparence d'un terrien et qui, à la fin, entre guillemets, de sa vie, cet ami-là redeviendra extraterrestre, en tout cas, c'est un leurre en fait.
Regagnera sa planète d'origine.
C'est
bon,
ça.
Enfin, j'espère pour lui en tout cas. Ouais. Mais oui, ça peut arriver. Bon, en général, ils le savent. Hein, mais ça peut arriver. Quelquefois, on a cette sensation, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas tellement envie d'être sur Terre, puis qui disent « Ah, mais moi, j'appartiens à une autre planète. » Bon, c'est pas parce qu'on appartient à une autre planète, mais quelquefois on a des contacts où on a déjà vécu ou une expérience sur une autre planète et on a cette sensation de connaître, de savoir ce qui s'est passé ou de savoir que s'il n'y a pas que la Terre quoi, qui existe. Hein.
Mmh. Voilà. Est-ce que les extraterrestres sont un peu nos protecteurs? Est-ce qu'ils voient, parce qu'on dit souvent, vous savez, qu'on voit des ovnis au-dessus des silos nucléaires?
Oui, tout à
est-ce
fait.
Que, voilà.
Par exemple, il y a eu Fukushima, il est évident que Fukushima, tout ce qui est nucléaire, il faut savoir que, par exemple, il n'y aura pas de guerre nucléaire parce que ça peut toucher les autres planètes.
Ah oui.
Et que, de toute façon, les êtres de l'espace vont faire en sorte que le nucléaire soit amoindri.
C'est-à-dire qu'en fait, ils vont se protéger en...
qui est amenée. Ils ne vont pas s'immiscer dans nos affaires, sauf certaines races, sans doute, qui, elles, vont s'immiscer, mais pour leur propre profit. Mais sinon, en général, ils ne s'immiscent pas dans les affaires des humains dans la mesure où ils respectent le libre arbitre, sauf si ça risque d'avoir des incidences sur leur planète.
Oui, bien sûr, c'est ça. Ouais. C'est l'effet papillon, quoi.
Pardon?
L'effet papillon, ils ont peur.
C'est ça.
C'est ça.
Et alors donc, au niveau du nucléaire, bon, évidemment, ils vont intervenir. Et ils sont déjà intervenus plusieurs fois pour que ça ne soit pas une catastrophe planétaire.
Ouais. Est-ce que vous pensez qu'il y a des colloques? Est-ce que vous pensez qu'il y a des colloques entre gouvernements, par exemple, terriens et extraterrestres? Est-ce que vous pensez
Bien sûr, mais ils sont intervenus. De toute façon, Eisenhower, lui, il a eu des rencontres. Le pape a eu des propositions. Enfin, je veux dire, mais il y en a encore aujourd'hui. Hein. Il y a des êtres de l'espace qui régulièrement viennent et font des propositions. Alors, ça dépend de ces êtres de l'espace. Par exemple, quand je parle d'un de mes derniers livres, Il voulait un garçon, donc dans ce livre-là, par exemple, il y a cette journaliste qui est préparée ou utilisée par le Vatican et par les services secrets du Vatican pour pouvoir s'immiscer dans des rencontres où elle sait qu'il y aura des êtres de l'espace qui vont intervenir pour essayer d'amoindrir peut-être le fait qu'on veuille, que le gouvernement mondial, disons, qui dirige la Terre, veuille faire certaines actions.
Et est-ce que vous pensez que le 21 décembre, donc là, dans quelques jours, est-ce que c'est une date importante pour les extraterrestres ou tout simplement c'est nous qui nous avons, qui nous sommes montés le borichon?
Écoutez, pour moi, c'est une date importante pour tout le monde parce que c'est quand même la fin d'un cycle, donc moi je trouve ça extraordinaire. C'est la fin de deux cycles en même temps. Alors bon, évidemment, il y a toujours des questions de temps. Il y en a qui disent, ouais, c'est pas le bon cycle, c'est le bon cycle. Mais en fait, c'est quand même la fin de deux cycles en même temps importants. Et donc, on va finir une ère pour rentrer dans une nouvelle ère. C'est un moment extraordinaire. Ça veut dire qu'on va pouvoir passer à autre chose. Donc, c'est important de passer à autre chose. C'est-à-dire, sans doute, d'avoir justement une compréhension différente. Par exemple, les extraterrestres, ce sont eux qui ont donné quand même tout ce qu'on appelle les énergies libres. Bon, les énergies libres, c'est tout ce qui pourrait permettre justement de ne pas polluer la planète ou d'avoir du chauffage différent, de pas payer tout ce qu'on est en train de payer pour avoir une maison correcte ou pour se chauffer, tout ça.
Est-ce que là-bas, ailleurs, dans une autre dimension, enfin sur une autre planète, il y a la course à l'argent, au matériel comme on l'a aujourd'hui? Est-ce que il y a des riches, il y a des pauvres, ou est-ce que on est passé
à... Il y a cet équilibre, je veux dire, les planètes en tout cas qui sont passées à notre niveau ont un équilibre qui est complètement différent. Je dirais, elles sont arrivées à un niveau d'unité. Je veux dire, c'est plus ces problèmes-là qui les travaillent.
Mais on est des barbares pour eux, c'est-à-dire que c'est pas possible.
Ah ben, non seulement on est des barbares, mais alors bon, pour ceux qui sont le moins sympathiques, on est considéré comme du bétail. Pour ceux qui sont le plus sympathiques, on est considéré comme au jardin d'enfants. Ou à la préhistoire, ça dépend.
Oui, alors.
Mais enfin bon, c'est pas.
Oui, vous me disiez qu'ils étaient tous passés par notre stade. Est-ce que ça veut dire que demain, enfin, quand je dis demain, c'est dans bien longtemps. Est-ce que l'espèce humaine deviendra, elle aussi, tranquille que ces êtres venus d'ailleurs, aussi
C'est ce que j'espère pour l'espèce humaine, c'est-à-dire qu'elle va arriver à une technologie évoluée, mais en même temps que l'esprit va aller avec la matière, parce que sinon, s'il n'y a que la technologie, ça ne suffira pas et ça n'ira pas bien loin. Hein. À un moment donné, oui.
La semaine dernière, j'ai mis une vidéo de Medvedev, vous savez, le Premier ministre russe, qui disait, à la fin de son interview,
on a ramené
dans la valise diplomatique, enfin nucléaire, tous les secrets qui nous ont été révélés et qui relatent la venue d'être venu d'ailleurs en Russie.
Bien entendu, oui.
Là encore, on peut lui faire confiance. Tout ce qu'il dit, c'est pas genre pour s'amuser, il a pas fait le malin, quoi.
Ah mais non, mais c'est une évidence et c'est bien. Je pense que justement, ce qui se passera après le 21 et les années qui suivent, c'est que justement, il y aura ce type de révélation et de plus en plus de personnes qui vont commencer à ouvrir l'espace mental, en tout cas, vers autre chose et savoir qu'elles ne sont pas impuissantes, cloisonnées et qu'elles ne sont pas obligées d'obéir à tout ce qui est gouvernemental et officiel.
Ouais. Bon, écoute, en tout cas, c'était ce soir passionnant, Angie Vaudan, parce que j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler, parce que j'avais des tonnes de questions encore à vous poser, et j'espère que j'aurai avant l'été prochain l'occasion de vous les reposer.
Voilà.
Bon, en tout cas, je rappelle que vous avez écrit 23 bouquins, vous êtes co-auteur de 23 bouquins qui ont été traduits dans 12 langues, donc c'est vous dire si vous êtes lu. Merci, bonne fête de fin d'année si vous
voulez. Merci à vous aussi.
Et à très bientôt.
Et à toute l'équipe, au revoir.
Maintenant, Bob vous dit toute la vérité, aussi en podcast sur radiofm.fr.
La révélation des pyramides. Voilà donc un sujet qui va nous intéresser jusqu'à minuit. Dans un instant, les deux acteurs principaux de ce film, à savoir le réalisateur et l'auteur. Jacques Grimaud, Patrice Poyard avec nous dans quelques instants. Ils vont prendre place à côté de moi. Mais avant cela, un peu de musique avec mon Mathieu.
Ouais, avec Sultan, sois fier de ce que t'es sur Ado et dans toute la vérité jusqu'à minuit.
Sois fier de tes valeurs avant celles de l'océan.
Tous les soirs,
21h minuit sur Ado.
Bob vous dit toute la vérité.